France Musique. Musicopolis. Mars 1914, Londres. Notre compositeur est né à la campagne, vers le centre de l'Angleterre, et il a passé son enfance dans le Surrey, sur la côte sud. Il a fait ses études aussi dans ce comté, dans une école prestigieuse, Charterhouse. Il n'arrive à Londres qu'à l'âge de 18 ans pour étudier au Royal College of Music. Et pourtant, il s'est toujours senti londonien. C'est ainsi que commence la deuxième symphonie de Ralph Vaughan Williams, intitulée A London Symphony, Symphonie de Londres. Pour un peu, on imaginerait une aube paresseuse sur la Tamise et le brouillard qui se lèverait petit à petit, dévoilant les mille petits détails qui, ajoutés les uns aux autres, forment une ville. Un paysage humide et indistinct qui, de plus en plus, se révèle à nos yeux et nos oreilles. Bientôt, en traversant le pont devant le palais de Westminster, on entend même sonner Big Ben, un peu assourdi. Petit à petit, Londres s'est réveillée et nous voici plongés dans l'animation de la ville avec tous ses habitants humains, animaux et machines. À m'entendre vous décrire tout un paysage urbain à l'écoute de la London Symphony de Vaughan Williams, vous pourriez penser que c'est le compositeur lui-même qui a donné un programme à sa symphonie. Mais non, pas du tout. Il a seulement donné le titre qui nous fait rêver. Il a même précisé que l'œuvre n'est en aucune manière descriptive. Au contraire, c'est de la musique pure. La London Symphony de Vaughan Williams a été entendue pour la première fois le 27 mars 1914. C'est pour ainsi dire la première grande symphonie britannique. C'est que la situation n'est pas si facile pour les compositeurs de sa très gracieuse majesté. À l'époque, c'est encore la musique germanique qui a le vent en poupe en Angleterre. De nombreux chefs d'orchestre allemands viennent diriger à Londres, Arthur Nikisch ou Hans Richter. Ils ont tendance à privilégier la musique de chez eux, bien sûr. Depuis quelque temps, heureusement, des Henry Wood ou Thomas Beecham font en sorte de jouer de plus en plus de musique anglaise. « malgré les efforts de quelques chefs, les compositeurs britanniques ont du mal à se faire jouer. C'est un organisateur privé, Bevis Ellis, qui monte en 1914 une série de concerts de musique orchestrale moderne. Celui du 27 mars permet d'entendre, à côté des valses nobles et sentimentales de Ravel, des œuvres de Delius, Balakirev, Franck et Bax. Mais le sommet de la soirée est bien la création de la symphonie de Vaughan Williams. Après la première de la London Symphony, les amis de Vaughan Williams sont ravis pour lui. Gustav Holst lui écrit « Cette fois, tu l'as vraiment fait. Non seulement tu as atteint des sommets, mais tu as emmené ton public avec toi et tu as prouvé la supériorité musicale de l'Angleterre sur la France. Je me demande si tu as réalisé comme Ravel sonnait vain et tapageur après ton épilogue. » Le Daily Telegraph est très élogieux. La symphonie est l'œuvre la plus maîtrisée et la plus belle, musicalement et psychologiquement, qui soit due à la plume d'un musicien de sa génération. Pour trouver l'origine de la London Symphony de Vaughan Williams, il faut remonter à 1910 et à une conversation entre le compositeur et son ami George Butterworth. Nous parlions ensemble un jour, se souvient Vaughan Williams, lorsqu'il me dit à sa manière bourrue et abrupte « Tu sais, tu devrais composer une symphonie ». J'ai répondu, si je me rappelle bien, que je n'avais jamais écrit de symphonie et que je n'en avais pas l'intention. Ça n'était pas tout à fait vrai, puisque quelques années plus tôt, j'avais ébauché trois mouvements d'une symphonie et un mouvement d'une autre, aujourd'hui heureusement perdu. Je suppose que les mots de Butterworth m'avaient piqué. J'ai ressorti quelques esquisses de ce qui devait être un poème symphonique sur Londres et j'ai décidé de le remodeler en forme de symphonie. L'année qui suit la mort de George Butterworth dans la Somme, en 1916, Vaughan Williams écrit au père de son ami. Depuis le moment où nous en avions parlé avec George, l'idée d'une symphonie a dominé mon esprit. Je lui montrais les esquisses, morceau par morceau, dès qu'ils étaient finis. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il possédait, comme bien peu de compositeurs, un merveilleux sens de la critique du travail des autres, avec beaucoup de perspicacité sur leurs idées et leurs motivations. Je ne lui serai jamais trop reconnaissant pour ce qu'il a fait pour moi à propos de cette œuvre. Et son aide ne s'est pas arrêtée à la critique. Lorsque Ellis a suggéré que ma symphonie pourrait être donnée à l'un de ses concerts, je n'étais pas à Londres, et donc dans l'impossibilité de réviser ma partition moi-même. George et Ellis ont alors entrepris de préparer une partition de travail à partir de l'original. À l'époque où Vaughan Williams commence à travailler sur sa London Symphony, il est un tout petit peu connu. Il a fait ses études avec les trois grands professeurs anglais de composition de l'époque, Paris, Wood et Stanford, puis avec Bruch à Berlin. Et pour changer un peu d'horizon, il est même allé à 35 ans prendre quelques leçons avec Ravel, qui lui a surtout fait travailler l'orchestration. Les musicologues font aller sa première période d'apprentissage et de recherche de sa voix personnelle jusqu'en 1908, c'est-à-dire ses 36 ans, jusqu'à sa première grande œuvre, A Sea Symphony, Symphonie de la mer, une pièce chantée comme son nom ne l'indique pas. En 1910, il vient de terminer On Wenlock Edge, un cycle de mélodies, The Wasps, une musique de scène pour Les Guêpes d'Aristophane, et sa première grande œuvre pour orchestre, La Fantaisie sur un thème de Thomas Tallis, qui deviendra son œuvre la plus connue. Vaughan Williams vient d'une famille aisée et il n'a pas eu besoin de trouver un emploi fixe salarié, sauf dans ses jeunes années où il a tenu un poste d'organiste dans une paroisse de Londres. Mais il a fait énormément de choses différentes. Outre écrire des articles sur la musique, il a été conférencier, éditeur, collecteur de chansons populaires. Cette dernière activité l'a beaucoup pris. Il a recueilli plus de 800 chansons un peu partout dans le pays. Il en a harmonisé une quarantaine pour voix et piano ou pour chœur. Il a aussi édité des pièces de l'époque élisabéthaine et jacobéenne. Il a participé au livre d'hymnes pour la messe. Il est aussi le chef d'orchestre principal du festival de Leith Hill, village où il a passé son enfance.
Thank you.
Depuis 1905, Vaughan Williams vit dans le quartier de Chelsea avec son épouse Adeline. De son bureau, il a la vue sur la Tamise et de l'autre côté du fleuve sur le parc de Battersea. C'est un lieu tranquille, mais pas très éloigné de quartiers nettement plus vivants. Piccadilly d'une part, et d'autre part des endroits nettement plus pittoresques, avec tavernes, champs de foire et combats de chiens. Dans une note de programme que le compositeur écrit pour sa London Symphony en 1915, il déclare « On a suggéré que cette symphonie était mal nommée, qu'elle devrait plutôt s'appeler « Symphonie d'un londonien ». Cela veut dire qu'elle n'est en aucune manière descriptive. Et même si l'introduction du carillon de Westminster dans le premier mouvement, la légère réminiscence du cri de la vendeuse de lavande dans le mouvement lent et la lointaine évocation d'harmonica et de piano mécanique dans le scherzo lui donnent une nuance de couleur locale, elle est destinée à être écoutée comme de la musique pure. Le troisième mouvement est un nocturne sous forme d'un scherzo. Mais si l'auditeur s'imagine sur le quai de Westminster la nuit, entouré des sons lointains du Strand, avec ses grands hôtels d'un côté et le New Cut de l'autre, avec ses rues bondées et ses lumières éblouissantes, puis une fois encore le carillon de Westminster, voilà qui peut lui servir pour écouter ce mouvement. Lorsque George Butterworth a préparé la partition de la London Symphony de son ami Vaughan Williams pour la première audition, il a émis quelques réserves sur le quatrième mouvement, et notamment un passage qui ne lui semblait pas satisfaisant. Le lendemain de la création, il lui écrit « Après la débauche de congratulations et de tapes dans le dos d'hier soir, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Mais je voudrais te dire maintenant comme je suis incroyablement heureux que tu aies finalement accompli quelque chose à la mesure de tes dons. Je te conseille vraiment de ne pas changer une note de la symphonie, pas avant la deuxième audition. Les passages contre lesquels j'avais rouspété ne m'ont pas dérangé du tout, parce que la musique dans son ensemble est si claire qu'un petit vagabondage occasionnel est plus plaisant qu'autre chose. Quant à l'orchestration, franchement, je ne comprends pas comment elle peut être aussi efficace. Mais tout sonne très bien, donc il n'y a rien à ajouter. » Thank you. Il semble que pour le quatrième mouvement et son épilogue, qui ferme la London Symphony, Vaughan Williams se soit inspiré d'un roman de H.G. Wells, paru en 1909, Tono Bungay, qui se termine sur une vision de Londres. Les lumières s'éteignent les unes après les autres. L'Angleterre et le Royaume, la Grande-Bretagne et l'Empire, les anciennes fiertés et les vieilles dévotions glissent par le travers et sur l'arrière, sombrent à l'horizon, passent, passent. Le fleuve passe, Londres passe, l'Angleterre passe. L'épilogue du quatrième mouvement de A London Symphony de R.F. Vaughan Williams, l'orchestre symphonique de la BBC dirigé par Martin Brabins. Tout le programme, la réécouter, le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Max Dozolme et Valentin Carpentier pour les recherches et le site, Jean-Louis Deloncle pour le mixage et Philippe Petit pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.